Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Israël dit avoir pris ce matin le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah avec l'Égypte. Une invasion de Rafah serait intolérable, avait prévenu le chef de l'ONU. Témoignage à suivre.
La Russie a convoqué hier l'ambassadeur français à Moscou. Nous ferons le point sur les relations toujours plus dégradées entre les deux pays.
Le point aussi sur le programme de Valérie Ayé, tête de liste du camp présidentiel pour les élections européennes. Une Europe qui se veut puissante, avec 100 milliards d'euros pour la défense par exemple.
Et en pleine campagne, les candidats s'expriment sur la visite du président chinois en France. Jean Lemarié en parlera à 8h15 dans son billet politique.
Les négociations devaient reprendre aujourd'hui au Qatar sur une trêve dans la bande de Gaza. Il y a eu un espoir pendant 2 heures hier entre la réponse positive du Hamas à une proposition de trêve et le non catégorique du cabinet de guerre israélien. Et si les discussions étaient théoriquement toujours ouvertes, Israël bombarde intensément Rafah où sont réfugiés plus d'un million de Palestiniens selon l'ONU. Israël qui dit à l'instant avoir pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah avec l'Égypte. Un porte-parole de l'autorité palestinienne des frontières a quant à lui déclaré à Reuters que le poste frontière de Rafah, qui permet donc de passer de l'Égypte à la bande de Gaza, était bouclé du côté palestinien en raison de la présence de chars israéliens. On fait le point avec vous, Thibault Lefebvre.
L'expression « offensive au sol » a été prononcée il y a quelques minutes dans un point presse, mais l'armée prend beaucoup de précautions pour sans doute ne pas effrayer la communauté internationale opposée à une opération à Rafah. Il s'agirait donc d'une opération de contre-terrorisme précise contre des cibles identifiées par les renseignements et qui se limiterait à l'est de la ville. Dans les faits, les forces spéciales israéliennes sont au sol avec en appui 2 brigades, 20 miliciens du Hamas ont été tués. L'autre information importante, c'est l'occupation du poste frontière de Rafah qui sépare l'enclave de l'Égypte. L'armée dit avoir repéré du côté palestinien des positions du Hamas et s'est donc emparée du point de passage sans entrer évidemment sur le territoire égyptien. De conséquence, l'aide humanitaire ne passe plus par le sud de Gaza, que ce soit par Kerem Shalom ou par Rafah. Et puis dans l'autre sens, les milliers de déplacés qui ont payé pour quitter l'enclave et qui attendaient de pouvoir traverser le poste frontière de Rafah sont contraints de rester sur place et de subir les conséquences d'une opération au sol qu'il redoutait depuis plusieurs semaines.
Donc hier, l'armée de l'État hébreu a ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers de la ville de Rafah, demandé aux nombreux Gazaouis concernés de rejoindre des zones dites sécurisées. Le récit de ces dernières heures avec Noé Pignède.
C'est par des scènes de liesse largement diffusées sur les réseaux sociaux que les déplacés de Rafah ont accueilli hier soir l'accord du Hamas en faveur d'un cessez-le-feu. Mais 2 heures plus tard, l'armée israélienne reprend son offensive et cible des bâtiments autour de la ville. Asma est réfugiée à Rafah avec toute sa famille, épuisée par 7 mois de guerre.
On a tous peur, on a pleuré, on fait plein de prières pour les gens. On souhaite bien avoir une trêve. Toute la bande de Gaza est détruite, il nous reste seulement Rafah. Après Rafah, on doit y aller où ? On doit y aller en Égypte.
Saïd, lui, n'attend plus rien de l'armée israélienne. Terrorisé par l'annonce d'une offensive terrestre, ce Palestinien a quitté Rafah. Et pour lui, pas question de rejoindre les zones définies comme sûres par Israël.
En tant que Gazaoui, on ne fait plus confiance à l'armée israélienne. J'ai déjà fui 3 fois depuis le début de la guerre. Et à chaque fois, les zones où l'on nous a ordonné d'aller ont été bombardées. La plupart des amis qui étaient avec moi sont morts, et leurs familles aussi.
Comme tous les Gazaouis, Saïd va suivre minute par minute les négociations au Caire aujourd'hui, avec l'espoir que cette guerre s'arrête enfin.
Un espoir très mince, une guerre qui dure depuis 7 mois depuis le 7 octobre. Dans ce contexte, le nombre de faits antisémites recensés en France a bondi. 366 enregistrés au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300% par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé hier le Premier ministre Gabriel Attal. Tandis que Paris soigne ses relations avec Pékin et reçoit le président chinois Xi Jinping pour parler notamment notamment commerce et guerre en Ukraine. On y reviendra avec les invités de Guillaume Herner. L'ambiance se refroidit toujours plus avec Moscou. L'ambiance qui s'est dégradée encore hier à l'issue d'une offensive diplomatique russe, convocation de l'ambassadeur de France à Moscou, propos visant Emmanuel Macron de la part de hauts responsables du pouvoir, la Russie à la France dans sa ligne de mire et plus généralement le monde occidental, alors que Vladimir Poutine doit s'exprimer publiquement cette semaine, Sylvain Tronchet.
Pierre Lévy commence à connaître le chemin de la place Smolenskaya et son comité d'accueil. Pour la troisième fois cette année, l'ambassadeur de France en Russie a été convoqué au ministère des Affaires étrangères où l'attendait une nuée de journalistes prévenus de son arrivée. Le diplomate français a écouté ses interlocuteurs russes dénoncer la ligne destructrice et provocatrice de la France, selon leurs mots, référence aux récents propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité de l'envoi de troupes en Ukraine. Moscou n'a également pas digéré que les missiles franco-britannique Scalp fourni aux Ukrainiens et fait des dégâts considérables sur ses navires de la flotte de la mer Noire. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a d'ailleurs lui aussi été convoqué hier. Moscou hausse le ton donc, annonce des exercices nucléaires près de la frontière ukrainienne, présentés comme une réplique afin que les choses soient bien claires, et elles le seront probablement encore plus après les deux discours que doit prononcer Vladimir Poutine aujourd'hui pour son investiture et jeudi pour les commémorations du 9 mai.
La Pologne regagne peu à peu la confiance de Bruxelles. Après le déblocage en février des fonds européens gelés, la Commission européenne annonce son intention de mettre fin à la procédure dite article 7 qui visait Varsovie depuis 6 ans en raison des atteintes à l'indépendance de sa justice, des faits qui remontent à l'ancien gouvernement. Mais la Commission salue les efforts engagés depuis son arrivée au pouvoir par le gouvernement de Donald Tusk. Elle estime qu'il n'y a désormais plus de risque clair de violations graves de l'état de droit. L'Europe indissociable du travail d'Angélique Kouronis. Elle était notre correspondante en Grèce depuis 1989. Elle est morte hier à 61 ans des suites d'une longue maladie. Pour la télévision, Angélique Kouronis a aussi réalisé plusieurs documentaires sur le parti néo-nazi, Aube Dorée, et publié un livre de témoignages en 2015, intitulé « Visage de la crise » aux éditions Buchet-Chastel sur la crise financière qui frappait alors les pays de l'Europe du Sud. Dans cet ouvrage, coécrit avec 3 autres journalistes, elle avait dressé le portrait d'Irini, mère de famille grecque, professeure et militante de gauche. Angélique Kouronis nous en parlait dans l'émission Le secret des sources le 19 décembre 2015 sur France Culture.
Avant, je traitais en fait cette crise comme tout journaliste, en allant voir les gens dans la rue, les sociologues, les politologues, ils avaient tous leur discours. Irini, quand j'ai été la voir pour la première fois, je faisais un film sur elle et ça a été vraiment le coup de poing dans les tripes, vraiment le coup de poing dans les tripes. C'est là où je me suis dit, ma pauvre fille, t'as rien compris à la crise. Quand elle a commencé à me parler, j'ai vraiment eu l'impression d'être totalement à côté de la plaque jusqu'à présent, vraiment. J'ai vu la crise au quotidien. J'ai vu la crise pas uniquement par des gens qui perdent leur salaire, leur mode de vie, mais par des gens qui luttent pour garder leurs repères. Irini, c'est quelqu'un qui lutte pour garder son intégrité de femme de gauche, son intégrité de syndicaliste. C'est une femme qui ne veut pas laisser les conséquences de la crise changer ce qu'elle croit. C'est une femme qui pleurait quand les néo-nazis sont rentrés au Parlement. Elle disait, c'est pas vrai, les gens vont croire que c'est ça la Grèce, la droite au gouvernement, les néo-nazis au Parlement. Puis maintenant, mes copains de gauche, mes copains qui sont homo ou lesbiennes ne vont pas oser me dire qu'ils le sont parce qu'ils vont croire que moi aussi je suis fasciste. Elle avait cette idée vraiment très forte de quel était le regard des autres sur la Grèce.
La journaliste Angélique Kouronis en 2015 dans Le secret des sources. Un mois des européennes et avant son deuxième meeting national ce soir, le camp présidentiel met en avant son programme pour les élections. La tête de liste Valérie Ayer, entourée de plusieurs colistiers et membres de son équipe de campagne, a présenté hier 48 mesures qui vont dans le sens de l'Europe puissance dessinée par Emmanuel Macron dans son deuxième discours de la Sorbonne, Rosalie Lafarge.
100 milliards d'euros pour la défense, un investissement massif dans le nucléaire, une meilleure coopération des polices contre le terrorisme, un grand plan pour la santé, le doublement du nombre d'universités européennes ou encore la majorité numérique à 15 ans.
C'est un programme ambitieux pour faire que l'Europe ne meure pas.
Suite logique donc, assume la tête de liste du camp présidentiel Valérie Ayer de la mise en garde d'Emmanuel Macron à la Sorbonne il y a 10 jours sur la possibilité de voir l'Europe mourir.
Ces propositions, j'en suis convaincue, elles sont les meilleures pour lutter contre les trois risques qui sont devant nous, le risque sécuritaire et migratoire, le risque climatique et économique, et puis le risque démocratique et d'attaque sur nos valeurs.
Lutter contre les risques, faire de l'Europe une puissance, reprise du vocabulaire présidentiel et de son image aussi, affiche de campagne en arrière-plan avec Emmanuel Macron, ces mots « notre projet » inscrits en gros sur le livret du programme tiré à 6 millions d'exemplaires. Malgré la menace de vote sanction, il n'est pas question de cacher le vrai capitaine du bateau pour le porte-parole Clément Beaune.
Nous ne découvrons pas l'Europe tous les 5 ans et donc nous assumons aussi cette cohérence, cette continuité. Nous sommes au fond en marche pour l'Europe depuis 2017. Alors oui, ce programme puise son inspiration dans la vision européenne du président de la République, à l'évidence. Et c'est la clarté d'une vision qui fait la crédibilité d'une action. Nous l'assumons, nous le revendiquons.
Revendication qui franchit une nouvelle étape ce soir avec le deuxième meeting national de la liste Ayée, un 7 mai donc, date anniversaire de la première élection d'Emmanuel Macron, à la Maison de la Mutualité à Paris, là où le même tenait à l'été 2016 la première réunion publique du mouvement qui l'a porté à l'Élysée.
Un texte sensible en Nouvelle-Calédonie commence aujourd'hui son parcours législatif à l'Assemblée nationale avec un examen cet après-midi en commission des lois. C'est un projet de loi constitutionnelle de modification du corps électoral. Il prévoit de donner le droit de vote aux élections locales aux personnes résidant dans l'archipel depuis au moins 10 ans, alors que jusque-là, il fallait habiter sur place avant 98. Résultat, 25 000 Calédoniens supplémentaires intégreraient les listes, mais ça ne plaît pas aux Kanaks indépendantistes qui demandent son retrait, car selon eux, ce projet bouleverserait les équilibres politiques actuels. C'est pourquoi ils se mobilisent, une contestation baptisée 10 jours pour Kanaky, avec l'intention de faire pression sur l'État français, Stéphane Robert.
Les Kanaks indépendantistes ont prévu d'organiser un événement tous les jours jusqu'au 13 mai prochain. Aujourd'hui, a priori, c'est un défilé de bateaux dans l'anse Vata, la baie la plus touristique de l'archipel. Le week-end passé, c'était des rassemblements devant la plupart des gendarmeries sur tout le territoire. Cette mobilisation est pilotée par la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, une organisation créée il y a quelques mois qui regroupe différents acteurs de la cause indépendantiste, des politiques, des syndicats et des associations. Cette cellule s'était illustrée en organisant le 13 avril une manifestation d'au moins 20 000 personnes face à un rassemblement presque équivalent organisé par l'autre camp, le camp des loyalistes. On a donc vu plus de 40 000 manifestants dans les rues de Nouméa. À l'échelle d'un territoire de 270 000 habitants, c'est beaucoup. Pour les indépendantistes, le projet de loi constitutionnelle de modification du corps électoral est un casus belli. Un projet de loi de recolonisation, pouvait-on lire sur des pancartes devant les gendarmeries ce week-end. Et s'il est voté et conforme à celui du Sénat le 13 mai prochain, de nombreux observateurs du dossier calédonien craignent que ça ne mette le feu aux poudres. C'est notamment le cas de l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui suit de près le dossier calédonien. « Tous mes interlocuteurs sur place sont inquiets », dit-il. « Si la mèche s'allume, ça pourrait vite devenir incontrôlable, car il n'y a sur place aucune force d'apaisement. Et je n'ai pas le sentiment, ajoute-t-il encore, que le gouvernement français se rend bien compte du risque qu'il prend. »
Des êtres comme ça sont des monuments, a réagi hier soir Françoise Nyssen à la mort de Bernard Pivot, 89 ans. L'ancienne ministre de la Culture, présidente des éditions Actes Sud, a rendu hommage à l'écrivain et journaliste amoureux des livres, de la langue française et passionné de dictées. On lui doit les Dicots d'or qu'il a présenté à partir de 1985 et pendant 20 ans devenu la dictée de Pivot. Il a réussi l'exploit de divertir les Français de tous les âges avec l'orthographe, souligne Jean Prud, lexicologue, professeur des universités en histoire de la langue, et il est cette année le parrain du Petit Larousse 2025.
Moi, je dirais que ça a eu un impact énorme parce que, en professeur des universités, je voyais mes étudiants se présenter au concours. Et vraiment, il a eu ce talent, je dirais, de pousser les jeunes aussi, et les moins jeunes, c'est intergénérationnel, à s'intéresser à l'orthographe, à lire le dictionnaire. Alors, c'est sans doute une époque, mais vous voyez bien que Bernard Pivot, si je puis dire, a fait souche auprès du grand public. Alors, c'est peut-être moins la faveur des universitaires, des intellectuels, mais je crois vraiment qu'il y a des enfants de Bernard Pivot un peu partout. Rachid Santaki, à sa manière, venant de Saint-Denis, crée des dictées des cités devant des milliers de personnes. Je crois vraiment qu'il y a là une sorte de stimulation à se retrouver dans une sorte de patrimoine. Chaque pays a un peu ses enjeux. Nous, on aime jouer avec l'orthographe. Ce qui intéresse effectivement Bernard Pivot, c'est l'histoire des mots. Comparer le dictionnaire de 1694 et celui de la 9e édition s'agissant de l'Académie, on voit des différences, mais énorme. Par exemple, l'accent circonflexe pour fenêtre, l'accent n'était pas là. Et on voit bien que s'il y avait eu des concours de RR pivot en 1694, aujourd'hui, ça serait une faute à chaque mot.
Le lexicologue Jean Pruvot, des propos recueillis par Cécile de Carvaz-Doué. Encore une journée plutôt grise et agitée en France avec par endroits des averses, parfois orageuses dans le sud. 14 degrés attendus cet après-midi à Toulouse, 16 à Lyon, 18 à Lille, 20 degrés à Paris et Marseille. 8h40.